Bienvenue sur Entreprendre dans la mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je suis Adrien Garcia, designer et fondateur de la marque de vêtements Réuni. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'une personnalité du monde de la mode pour comprendre son parcours, ses problématiques et ses stratégies pour innover et se développer. Avec ce podcast, je souhaite recueillir et partager des conseils pratiques et des idées neuves pour se lancer et réussir dans la mode. Entreprendre dans la mode, c'est aussi une newsletter dans laquelle je partage chaque vendredi les outils, les méthodes et les apprentissages clés d'un entrepreneur à succès. Pour ne pas rater les prochaines, inscrivez-vous gratuitement sur www.entreprendredanslamode.com. Enfin, si vous souhaitez sponsoriser ou co-créer du contenu avec Entreprendre dans la mode, c'est possible. Là encore, rendez-vous sur le site web du podcast. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la mode. On est toujours dans cette période de confinement, déconfinement, on est dans la première semaine du déconfinement et je reçois des invités qui sont déjà passés dans Entreprendre dans la mode ou qui vont passer plus tard dans Entreprendre dans la mode. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui n'est jamais passé dans Entreprendre dans la mode, mais on se connaît depuis quelques temps maintenant. Elle s'appelle Alexandra Jubé, c'est la fondatrice du bureau Alexandra Jubé, et je suis avec elle, et elle va se présenter, elle va revenir sur son parcours. Salut Alexandra.
Bonjour Adrien. Oui, alors je suis Alexandra Jubé, j'ai fondé mon bureau il y a 2 ans, qui est un bureau de conseil en stratégie pour les marques. Et en fait, moi, à la base, j'ai une expérience qui était plutôt en agence de prospective, où je m'occupais du département Insight, d'une grosse agence de prospective, et où j'ai travaillé aussi, après je suis passée un peu du côté de la marque et de l'annonceur dans une scène plus fast fashion. Je travaillais plutôt sur la communication et sur l'image. Et en fait, ma spécialité, c'est vraiment de travailler sur la stratégie de marque, mais d'utiliser pour ça l'étude des comportements de consommateurs et l'étude des tendances pour, en gros, se dire voilà comment les gens sont en train de consommer, voilà ce qui est en train de changer dans l'époque. Et du coup, aider les marques à se positionner par rapport à ces nouvelles donnes et ces nouveaux changements qui sont en marche. Et après ça, je vais travailler avec les marques sur vraiment toute la construction de leur stratégie, leur positionnement, leur façon de parler, leur façon de travailler, etc. Donc, c'est assez global, mais ça reste vraiment sur un aspect purement stratégique.
Ce qu'il faut dire aussi, on donnera les coordonnées, mais je trouve que c'est important de le dire, c'est que tu as une newsletter qui tombe régulièrement, il n'y a pas une fréquence bien précise, mais au moins une fois par mois, on a une newsletter de Bureau Alexandra Jubé qui est assez ouf, et c'est une des seules newsletters que je lis vraiment en profondeur, qui est hyper quali, quoi. Aujourd'hui, moi, je voulais t'avoir dans le podcast pour faire un peu de prospective. On vient de traverser un cataclysme, un truc qui n'était jamais arrivé auparavant, la crise du Covid-19. Et j'ai l'impression que cette crise, elle a changé en profondeur tout un chacun et tous les consommateurs, mais tous les humains de la planète, forcément. Et ces humains qui sont aussi des consommateurs, parce que là, on parle de business, ils vont avoir des comportements qui seront différents, toi. Tu vois, et la question que je me posais et que j'ai envie de te poser, c'est dans quelle mesure nos clients vont être différents? Qu'est-ce qu'il faut retenir?
Alors déjà, effectivement, c'est un changement considérable. Tu sais, quand on travaille sur le marketing générationnel et que tu vas vraiment étudier les générations, que ce soit génération Z, les millennials, la génération alpha, les plus jeunes, etc., ce qui différencie une génération d'une autre, c'est des marqueurs hyper forts qui, à un moment, changent l'époque. Clairement, ce qu'on est en train de vivre là va changer l'époque. C'est-à-dire qu'il y aura un avant et un après. Alors, pas forcément que positif, pas forcément que négatif, mais en tout cas, ça va avoir reconditionné pas mal de choses dans le rapport des gens avec la consommation, avec eux-mêmes, avec leurs proches, etc. Enfin, c'est vraiment une transformation hyper large. Et en ça, c'est assez incroyable de vivre un moment comme ça, parce que tu vas vraiment te rendre compte qu'il y a des choses qui vont être en train de se transformer de façon très profonde. Après, ce qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, c'est que dans une crise, tu n'inventes pas non plus des choses complètement qui n'existaient pas. Il n'y a pas des trucs qui vont se passer qui n'ont rien à voir avec ce qui se passait avant. En fait, ce que ça va faire, c'est que les changements qui étaient en marche vont s'accélérer, vont se renforcer, vont se radicaliser, mais en fait, ce sera quand même des graines qui étaient déjà là dans l'air du temps et qui étaient déjà en train de pousser ça et là. C'est juste qu'à un moment, ça va plus vite et ça va plus fort. Donc, c'est plutôt ça qui va déjà être dans la transformation. Sur ce que ça va vraiment changer sur les comportements des consommateurs, de la même façon qu'avant, tu avais quand même une bipolarité des comportements assez forte, elle va de toute façon se renforcer. C'est-à-dire que d'un côté, tu vas avoir cette espèce de mouvement un peu plus slow, un peu plus responsable, et notamment qui est dans la mode avec des marques de plus en plus engagées, qui vont travailler sur la durabilité, qui vont travailler sur la responsabilité, qui vont être dans des démarches de plus en plus locales, de qualité, de longévité, etc., qui était un mouvement qui était déjà fort et qui était amorcé et qui questionnait quand même les problématiques d'hyperconsommation. Mais il n'y a pas que ça. Et en ça, il faut faire attention aussi à projeter un peu ses propres fantasmes, à être un peu dans l'ethnocentrisme en se disant « oui, ben moi, j'ai envie que ça évolue vers ça, donc ça ne va être que ça », parce que ce n'est pas le cas. Parce que de l'autre côté, tu as quand même aussi une fast fashion hyper puissante. Tu as aussi je pense à des leaders, des retailers comme des Boohoo, comme des Fashion Nova, comme des Zara, etc., qui restent des machines très fortes. Et ces gens-là ne vont pas s'écrouler demain. Tout le monde ne va pas être que dans une consommation consciente. Donc, c'est vachement important d'imaginer aussi que les deux vont coexister et qu'il va falloir quand même, il va y avoir aussi des marques qui vont traiter vraisemblablement l'un et l'autre. Mais ça va sans doute en plus s'accélérer de façon encore plus puissante avec ces deux extrêmes et cette bipolarité hyper forte. Donc, d'un côté, tu vas avoir du coup ce truc qui va être plus slow, et une des implications qu'on voit dans la mode de façon hyper forte, c'est la question de la saisonnalité qui va être en train de changer, qui est hyper questionnée et hyper challengée maintenant, et qui va être un truc qui va être très transformé sur comment aller moins vite, être moins dans cette espèce d'hyperconsommation permanente, de renouvellement permanent, etc. Donc, tu as ce truc-là qui existe. Mais de l'autre côté, tu as aussi le pendant de quand les magasins ont réouvert en Chine, d'une espèce de furie d'achat dans certains magasins avec des enseignes qui ont fait des chiffres complètement astronomiques les premiers jours, parce que tu as aussi ces deux extrêmes qui vont exister en parallèle.
Très bien. Alors franchement, là, c'est une fois que tu sais ça, une fois que tu as dit ça, quand tu es... quand t'es une marque de cosmétiques, enfin, en fait, je trouve que ce qui est difficile dans cette analyse, c'est comment est-ce que on se positionne quand on est une marque historique qui, tu vois, récemment, je parlais avec Simone Perel, qui est une marque historique de lingerie, etc. Quand on est une marque qui s'est construite sur plusieurs dizaines d'années, que tu as traversé les décennies et tu as traversé les crises, etc. Là, on se prend quand même un truc qui s'est du jamais vu. Donc, ça veut dire qu'il faut transformer en profondeur toute sa communication, tout son marketing, ou pas forcément, où il faut ajuster. Comment tu vois les choses, toi, de ce côté-là?
Un des signes qui était hyper fort et qui, je trouve, est vraiment ressorti dans cette crise, c'est la capacité à innover de façon rapide. C'est-à-dire qu'en gros, alors qu'on a passé des années à se dire qu'il fallait faire des business plans, tu vois, tu avais cette espèce de lourdeur des entreprises et qui n'a pas du tout été vécue par les startups, et c'est pour ça notamment les DNVB ont émergé de façon hyper forte, c'était de se dire que tu avais besoin que tout soit validé, survalidé, des espèces de process d'entreprise hyper longs et hyper complexes. Ce que tu t'es rendu compte là, c'est que tu étais capable, en fait, parce que tu te disais que là, tu étais en train de mourir si tu ne te bougeais pas, d'innover de façon hyper frugale, à petits coups, à lancer des espèces de trucs pas complètement aboutis, mais de te dire que finalement, tu étais capable de te réinventer. Et ça, ça a quand même mis dans des boîtes qui étaient un peu plus installées, pas dans des startups qui avaient cette habitude de faire des trucs hyper rapides, mais des boîtes qui étaient un peu plus installées, un peu plus ronronnante dans la façon de procéder et où tout était de façon hyper processée tout le temps et que du coup, ça avait une espèce de d'immobilisme assez fort, une capacité à innover hyper rapide. Et que finalement, on se rendait compte qu'une multitude de petits quick wins, de petites choses faites rapidement, pouvaient avoir finalement beaucoup d'effets plutôt que de tout de suite vouloir lancer la grande transformation de l'entreprise, etc., qui finalement n'arrivait jamais. Donc ça, c'est un des premiers enseignements, c'est de se dire que finalement... la mutation, elle peut venir d'une multitude de petites actions. Et notamment, tu vois, la restauration, pour prendre une autre industrie, a été une des industries qui a réussi à innover de façon hyper rapide. Que des restos faits par des chefs, on se sont mis à faire du delivery un peu haut de gamme pour que tu recrées presque une expérience de restaurant chez toi. Que certains se sont transformés en épicerie, que d'autres ont ajouté des services de livraison. En fait, elles se sont dit, c'est ça où on meurt. Et je pense que ça a quand même permis à des boîtes de se bouger. Et on l'a vu, par exemple, l'explosion du live. Et de la création de contenu live, qui est un nouveau médium qui n'existait pas du tout, enfin qui était franchement rien par rapport à ce que c'est aujourd'hui, complètement sous-exploité. Tu as énormément de marques qui se sont dit, eh ben, finalement, je vais pouvoir me positionner là-dessus, créer des contenus, aller chercher des nouveaux, donc presque un nouveau type d'influenceur qui allait plutôt être ici un prof de yoga, ici une cuisinière, etc. Donc plutôt des gens qui mettaient à profit un savoir-faire. Et finalement, je vais communiquer comme ça. Donc déjà, cette capacité à se dire que finalement, on n'a pas besoin que les trucs soient testés, pré-testés, pré-validés pour pouvoir le faire, c'est quand même une transformation hyper forte pour les entreprises et notamment pour des entreprises qui sont un peu plus traditionnelles dans leur manière d'aborder les problématiques.
Tu peux nous donner deux, trois exemples de choses qui t'ont vraiment marqué ou des entreprises qu'on pourrait dire un peu traditionnelles, un peu old school, ont fait des trucs vraiment foufous?
Alors vraiment traditionnel. Bon. Le problème, c'est que malheureusement, c'est rarement les entreprises les plus traditionnelles qui ont quand même fait les trucs les plus foufous. Elles sont quand même plus, pour la plupart, pris. Bah non, ouais. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu. C'est, déjà, il y a une démarche qui était intéressante de se mettre dans ce truc de dynamique hyper rapide. Aujourd'hui, la problématique que tu as, c'est quand même que tu en as qui sont plus en avance. Ce qui a permis ce mouvement-là, c'est que des marques, et notamment l'un des chantiers hyper importants sur les marques, c'était la problématique de digitalisation. Ça a permis à pas mal de ces marques qui étaient en retard de se mettre à niveau. C'est-à-dire de se dire que d'un coup, en fait, il fallait que leur expérience e-commerce, elle soit développée, que leur service et que leur communication digitale de façon globale, elle devienne très forte. Ça les a mis, en fait, dans un bain qu'ils avaient du mal à prendre. Après, on ne va pas se mentir, c'était déjà celles qui étaient très fortes sur le digital qui ont tiré leur épingle du jeu. Et c'est quand même aussi un des trucs de cette crise, c'est que tu te rends compte que ceux qui étaient bons, bah, ils renforcent un peu leur position de leader, de façon de communiquer hyper en phase avec les attentes des consommateurs, avec une capacité à s'adapter hyper vite à leurs besoins, etc. Des marques hyper leaders comme des géants du sport, etc., qui, pareil, ont pris le truc de façon hyper rapide. Et d'autres, ça les a fait bouger plus vite. Aujourd'hui, le problématique de cette crise-là, elle te fait quand même te rendre compte que ceux qui étaient déjà en difficulté, ça n'aide pas. Et c'est-à-dire que même s'ils rattrapent des trucs, à un moment, il y a quand même des gens qui vont y perdre dans ce truc-là. Qui n'avait pas réussi à bouger avant et ce sera trop tard en fait aussi pour bouger.
Toi, dans ton. Donc, tu l'expliquais en introduction, tu accompagnes des marques dans leur plateforme de marque, dans leur branding, dans leur façon de communiquer, etc. Comment se sont comportés tes clients pendant cette crise? Et ma deuxième question, c'est. Les clients là, qui reviennent, parce que la crise, c'est... Bon, on est en fin de confinement, mais la crise, elle est loin d'être terminée quand même. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher et de quoi ils ont besoin pour pouvoir affronter les mois et les peut-être un an, deux ans qui arrivent là?
Alors, tu avais plusieurs demandes qui sont venues. C'est-à-dire que tu as quand même eu un moment un peu un peu figé, si tu veux. T'as eu les missions qui étaient en cours, qu'on continuait, etc. Après, t'as eu un espèce de moment où les marques se sont un peu figées en attendant un peu de voir ce qui allait se passer. Moi, à ce moment-là, j'ai accompagné pas mal de marques sur la compréhension du moment. C'est-à-dire que essayer de comprendre, du coup, comment les consommateurs allaient pouvoir changer, ce que ça allait pouvoir dire pour les marques, quelles étaient les typologies de produits dont les consommateurs allaient avoir envie, ce que ça allait transformer dans leur rapport à la marque, à l'échange, à la communication, etc., pour essayer d'appréhender un peu l'après. Donc, tu avais cette espèce de moment où on essaie de comprendre ce qu'il va falloir adapter dans ce qu'on va faire demain. Tu as aussi une problématique qu'on les marque de façon très forte, qui est une problématique opérationnelle, là, qui est très importante, qui est comment tu vas gérer la réouverture de tes magasins, comment tu vas gérer cet amoncellement de stock, comment tu vas gérer si tu t'es mis à faire des masques, à produire des masques dans tes usines, comment tu vas gérer ça. Enfin, des trucs qui étaient vraiment un espèce de truc de l'instant hyper puissant. Et t'en as d'autres qui en ont profité pour se dire « Ok, c'est les moments où on construit sa marque. » Pas toutes, et notamment plutôt des nouveaux projets ou des choses qui étaient un peu en construction, de se dire « Ok, c'est le moment pour se dire on va construire sa marque et on va vraiment travailler sur ses piliers de marque parce qu'on se rend bien compte que là, c'est le moment de changer. » Et qu'en fait, ce moment, au-delà même de l'expérience des marques, t'as beaucoup de dirigeants qui en ont pris aussi le temps d'un pas de recul et de se dire « Ok, il y avait des choses qui étaient en mouvance et qui n'était pas forcément hyper clair, où on avançait, on courait tout le temps. » Et c'est souvent le problème des marques, c'est qu'en fait, elles courent avec des piliers qui ne sont pas forcément hyper bien figés, hyper bien structurés, etc. Et que du coup, tu as une espèce de dilution de ta marque au final. Et en fait, cette prise de recul a permis à pas mal de gens de se dire « Ah, mais en fait, il est temps que je me repose des questions sur ma marque parce que là, on a trop couru et on a un peu finalement perdu qui on était. » Donc là, c'est sûr que depuis... Et ça, il y a un vrai changement, je trouve, de posture d'esprit depuis qu'on est déconfiné, là, donc depuis lundi dernier, où il y a d'un coup tout un tas de nouvelles initiatives qui se lancent, tout un tas de nouvelles marques qui viennent en se disant « Ok, comment on va réécrire notre marque, comment on va changer et comment on va poser les nouvelles bases de ce qu'on a envie d'être ?» Donc, tu as quand même eu cette prise de recul vachement importante de la part des marques.
Et comment, alors, on repose les bases de sa, de sa, de sa, quand, comment on réécrit en fait les piliers de sa marque, justement quand on n'avait pas forcément ça dans l'ADN au départ, quoi. Parce que bon, les nouveaux piliers, c'est quoi? C'est plus de responsabilité, c'est plus de local. C'est quoi d'ailleurs les nouveaux paradigmes finalement? Qu'est-ce qu'on attend d'une marque aujourd'hui?
C'est-à-dire que d'un côté, ce que tu attends d'une marque, l'un des trucs que tu attends, c'est une problématique de sens. C'est-à-dire, ça, c'est un truc qui était dans l'air du temps de façon très forte depuis un moment. Tu t'attends à ce que la marque, elle prenne des positions qui soient hyper fortes et qu'elle transcende en fait ce qu'elle est, c'est-à-dire juste une proposition d'une offre de consommation pour devenir un acteur de ta vie et qui ait du sens. Et les initiatives de très gros groupes qui ont travaillé avec des hôpitaux, fourni du gel hydroalcoolique, etc., c'était aussi des façons de donner à ta marque ou à ton groupe en l'occurrence une dimension bien plus importante que la dimension de consommation qui est derrière. Ça, tu t'en rends compte que c'est quand même un truc de la part des marques qui est très fort. Deuxième point, tu as eu aussi un truc d'humilité un peu de la part des marques. C'est-à-dire que là, tu as eu un moment de, en fait, on est tous bloqués chez nous. Il y en a certains qui sont en première ligne pour sauver des vies. Donc du coup, ça te remet aussi un peu un espèce de sens de priorité dans ce que tu fais et dans ce que tu dis, etc. Et qu'en fait, bon, il y a des gens qui ont fait un peu plus que toi à ce moment-là. Donc, tu avais quand même un truc d'humilité qui était un peu forte. Donc, comment tu vas avoir ce paradigme où tu vas déjà avoir ce truc de recherche de sens. Premier truc, c'est, après, cette recherche de sens, elle peut s'exprimer de plein de façons différentes. La complexité pour les marques aujourd'hui, c'est que tu vas devoir traiter tout un tas de questionnements qui sont en même temps. La question d'inclusivité, la question d'écologie, la question de la responsabilité, la question du local, etc. C'est compliqué pour une petite marque d'aborder en même temps toutes ces problématiques. Mmh. Et encore, ça l'est moins pour une petite marque qui se lance parce qu'en fait, elle l'a souvent dans son ADN de base que pour une marque qui se repositionne et qui ne l'avait pas forcément dans sa culture à la base, où elle doit en plus se transformer. Tu as évidemment tous ces éléments-là qui sont importants. Mais il ne faut pas être naïf non plus, ce n'est pas les seuls. C'est-à-dire que quand aujourd'hui, la problématique écologique, par exemple, c'est un sujet extrêmement important sur lequel la question ne se pose pas de la nécessité des marques de prendre la parole là-dessus. Aujourd'hui, on vit une pandémie mondiale où l'un des remparts à la pandémie, c'est le masque. Le masque est un truc complètement anti-écologique. Tu sais déjà que c'est complètement antinomique et que tu as déjà mis sur le marché un truc alors que tout le monde, tu vois, que tu avais... je sais pas, je prends une analogie complètement différente, mais avec les bouteilles d'eau, par exemple, tout le monde était en train d'essayer de faire monter sa consommation d'eau en se disant il faut avoir des gourdes, etc. Tu avais un discours hyper fort sur ça. Et là, on te revient avec un truc ultra polluant, etc. Et en fait, comme si on n'apprenait pas de nos erreurs non plus, tu vois. Donc, et parce qu'il fallait répondre dans l'urgence, évidemment. Donc, du coup, t'as ces problématiques-là. Donc, il faut, pour les marques, elles vont devoir traiter tout un tas d'éléments qui sont parallèles. Et il va falloir à un moment qu'elles... C'est aux marques aujourd'hui aussi d'être volontaire dans ces choix-là. Quand je travaille avec des marques aujourd'hui, je mets la problématique de tout ce qui est, en gros, l'engagement, quel qu'il soit, parce que tu ne peux pas forcément toujours t'engager sur toutes les causes en même temps et au même niveau. Pour moi, au même niveau que la construction de ton offre-produit ou que ta stratégie de communication. Pour moi, ta stratégie d'engagement, en 2020, elle est au même niveau d'importance dans ton entreprise. Et c'est hyper intéressant parce que quand tu discutes avec les marques, quand c'est des marques qui sont un peu plus anciennes, tu te rends compte en fait les engagements que tu fais. En fait, c'est vraiment des changements à faire à arriver dans les entreprises, de se dire que en fait, ce sera potentiellement moins profitable, je vais moins gagner, ça va me coûter quelque chose, etc. Et qu'en fait, des vrais engagements, si c'est pas un peu contraignant, ce ne sont pas des engagements. Si c'est juste un peu facile, ça ne sont pas des... Tu vois, donc en fait, c'est comment tu vas glisser cette contrainte hyper importante et en faire un outil pour finalement développer ta marque et lui donner du sens et de l'intérêt pour des consommateurs pour qui c'est important.
Je prends un exemple... Moi, qui m'a marqué récemment, c'est McDonald's qui a décidé d'enlever le plastique de tous ses restaurants. Et je trouve que... Et on sait très bien qu'enlever du plastique quand tu es dans la restauration rapide, c'est juste la croix et la bannière. C'est la merde parce que ça coûte... parce que les solutions, elles sont beaucoup plus chères, parce que c'est beaucoup moins efficace quand tu as un gobelet sur lequel tu mets un couvercle avec un truc en carton, ça se casse la gueule pratiquement systématiquement. Enfin, ils ont fait un move où ils ont dit « Ok, nous, on veut éradiquer le plastique de nos restaurants. Les solutions qu'il y a aujourd'hui, c'est pas les meilleures, mais on préfère éradiquer le plastique. Ça va nous coûter plus cher, mais c'est un sacré move, quoi. » Et je trouve que, en fait...
Ça peut être qu'une volonté qui est portée, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment, si tu attends que le marché... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les marques, elles ont une telle puissance, une telle force de frappe, une telle capacité. En fait, elles sont devenues tellement presque des États à part entière pour certains et pour des géants, par exemple, du numérique, avec la puissance presque de pays en elle-même, que si les changements, ils les amorcent pas eux-mêmes en s'en faisant à un moment le porte-voix, en les prenant et en forçant, parce qu'en fait, si tu, et l'exemple de McDonald's que tu donnes est hyper juste, c'est-à-dire que si tu forces pas à le faire, tu peux rester encore avec ton plastique jusqu'à temps qu'il y ait un accord qui soit trouvé à un niveau gouvernemental qui n'arrivera pas tout de suite parce que lobbying, parce que ceci. Et ben non, là, à un moment, tu prends ton courage en tant que marque et tu dis, nous, on va contribuer à changer le monde. Et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, toutes les marques avec lesquelles tu travailles, quand tu travailles sur des piliers de marque, en fait, elles veulent toutes savoir c'est quoi leur fonction, genre c'est quoi leur promesse au-delà de leur, tu vois, de leur mission quotidienne, de ce qu'elles vont faire, de on fabrique des soutiens-gorge, on fait des jupes, ou, etc. Finalement, c'est quoi que j'apporte? Et c'est toujours une question hyper importante. C'est quoi que j'apporte au monde et c'est quoi qui donne du sens à ce que je fais au-delà de ma fabrication, au-delà de ce qui est aussi de donner des emplois à des gens, etc. Mais tu vois, qu'est-ce que j'apporte de plus?
Et, ça...
et aujourd'hui, c'est une vraie problématique pour les marques.
Et ça, elles y arrivent ou pas, les marques, à trouver leur raison d'être, finalement? Parce que c'est ça qui est génial quand tu crées une marque et quand tu es souvent dans les DNVB. C'est des marques qui sont des marques à mission, quoi. Elles sont porteuses d'une mission de sens dès le départ. Mais quand on est une marque où on ne s'est jamais posé la question de qu'est-ce qu'on apportait au monde, putain, il faut aller creuser profond quand même, hein.
Ouais, il faut aller creuser profond, mais la plupart, ils sont de plus en plus sensibilisés, tu vois. C'est-à-dire qu'elles se rendent bien compte, et puis il y a une dimension qui est aussi stratégique derrière, c'est que tu te rends compte aujourd'hui, notamment parce que c'est quand même souvent le sujet de la part des marques, c'est comment je vais viser une clientèle plus jeune ou comment je vais pouvoir toucher des gens qui sont un peu plus jeunes dans la consommation. Et c'est quand même souvent pour ces problématiques-là que tu as envie de positionner ta marque, c'est pour séduire des nouvelles cibles. Et qu'aujourd'hui, c'est un des paramètres par lequel sont jugées ces nouvelles marques. C'est-à-dire que pour les jeunes, c'est tellement important, c'est tellement plus important que certains autres paramètres qui étaient clés pour les marques avant, que finalement, si elles ne les ont pas, bah en fait, elles perdent de la désirabilité vraiment au global et pas uniquement, et que leur offre produit ne sera pas suffisante en fait pour les soutenir ou leur expérience en magasin, etc. Et que si à un moment, donc elles le font parce qu'elles pensent que c'est important d'avoir du sens, mais aussi parce qu'elles se sont bien rendues compte que si elles n'en avaient pas, elles perdaient aussi un avantage concurrentiel.
Donc ça, c'est quand même plutôt pour les grosses marques. Mais alors, les petites marques, elles n'ont pas trop ce problème-là, parce que bon, la plupart des marques qui se sont créées ces trois dernières années, elles portent ça en elles depuis... Enfin, c'est souvent porté par des jeunes gens qui ont ça ancré en eux. Donc finalement, cette pandémie et cette crise qu'on vit ne fait qu'accélérer. Et donc, les petites marques qui s'étaient créées avant la crise vont surfer encore plus sur cette quête de sens qu'ont les gens, quoi.
Ouais. De toute façon, c'est sûr qu'aujourd'hui, toutes les petites marques qui viennent avec lesquelles je peux travailler, c'est des problématiques qui sont intégrées dans leur création. Après, ce qui est plus la difficulté aujourd'hui, c'est comment tu crées une histoire qui est différente pour les petites marques. Ouais. Parce que tu as effectivement une multitude de petites marques qui sont en parallèle.
Et qui racontent toutes les mêmes choses.
Avec souvent, souvent beaucoup de choses en commun. Une esthétique, tu vois, une espèce de... culture de l'esthétique Instagram qui fait que potentiellement des identités qui sont assez proches, potentiellement des storytelling qui sont un peu les mêmes, etc. Donc là, on est moins sur les problématiques d'engagement, mais finalement plus sur les problématiques de comment tu vas réussir à créer quelque chose de différent et à raconter des choses qui sont qui peuvent te permettre d'émerger sur le marché et de pas être noyé dans cette masse. Aujourd'hui, on y arrive encore, et t'as encore beaucoup de marques qui arrivent à se lancer avec des propositions différentes parce que cette explosion de petites marques, elle est encore, comme tu dis, elle a quelques années, tu vois, elle est encore assez récente, donc tu as encore de la place sur le marché. Et tu as quand même souvent des gens qui ont une vision très et créative et très marketing de place sur le business à se faire, de disponibilité, d'envie des consommateurs d'avoir ces nouveaux produits, etc. Donc du coup, elles ont quand même pas mal souvent étudié le marché et t'es pas que dans un truc sensible de j'ai envie de faire ça et peu importe si ça marche, tu vois. Tu as quand même souvent une étude des deux niveaux, quoi.
T'as des exemples de marques qui le font hyper bien, qui ont à la fois du sens, mais qui ont su aussi raconter une histoire, faire un storytelling qui dépasse cette quête de sens et ce côté direct au consumer qui coupe les intermédiaires, etc. Est-ce que t'as des belles success stories en tête?
Alors, en France ou à l'international? Je pense que dans les, je pense que l'industrie de la beauté est une industrie qui est hyper dynamique aujourd'hui et qui, pour le coup, s'est illustrée par pas mal de trucs qui étaient hyper intéressants. Je pense que des exemples, alors là, je te donne plutôt un gros truc qu'un petit et je pourrais donner des petits après. Je pense que Goop est un exemple hyper intéressant dans sa démarche hyper décriée de, et à la fois mi-médical, enfin médical, c'est un bien grand mot. Mais un truc un peu, une approche de la beauté super holistique, etc., qui a intégré un espèce de tout un style de vie autour de, d'une personnalité, la personnalité de Gwyneth Paltrow, et qui, au-delà, s'est étendue à tout un tas de produits. Et je trouve que cette capacité, en fait, ce que j'aime bien dans ce modèle-là, c'est la capacité à avoir, en fait, créé un écosystème dans lequel la marque Goop vit, avec d'autres marques qui viennent la nourrir elles-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, sur le site, tu n'as pas que la marque qui est vendue, tu as tout un tas d'autres produits. Mais qui, en fait, en eux-mêmes participent et contribuent à renforcer le narratif de la grande marque ombrelle au-dessus de ça. Donc, du coup, c'est assez intéressant cette espèce de façon d'avoir créé un espèce de modèle hybride où les uns vont pouvoir aller nourrir les autres, tu vois. Ça, je trouve que c'est un exemple qui est intéressant. En beauté en France, Oh My Cream est une marque, tu vois, que je trouve assez intéressante parce que c'est vraiment l'incarnation d'une vision. C'est-à-dire que tu es vraiment sur une marque qui est incarnée par la fille qui l'a créée et où tous les choix sont un truc qui est un très bon équilibrage d'une bonne connaissance marché, mais un vrai feeling personnel de ce vers quoi il faut aller. Et du coup, c'est intéressant cette façon de se dire que la marque, quand bien même est une offre sur le marché, quand bien même est là en plus un retailer, donc tu vois, quelqu'un qui va vendre d'autres marques, etc., parvient quand même à imprégner une vision très personnelle, tu vois, très personnelle de la marque là. Après, un exemple qui en mode est évidemment un des plus intéressants aujourd'hui pour moi, c'est Jacquemus, mais pas que pour moi évidemment, pour sa capacité à avoir fait bouger toute une façon de faire les codes du designer, d'avoir pris la parole de façon extrêmement personnelle, et en finalement en se disant que il allait pouvoir faire plier une industrie à la façon de faire des shows, à la façon de faire des trucs, qu'en fait il allait suivre aussi son sentiment personnel de façon très forte, de le faire sans collaboration, ce qui est aujourd'hui quasiment inexistant, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment aucune marque qui se permet de ne pas faire de collaboration et c'est le cas. Donc je trouve que tu vois, c'est un contre-pied complet à ce qui est en train de se passer aujourd'hui et où les marques émergent sur ce truc-là. Et ça, je trouve que c'est quand même... pour une petite marque, etc., petite, enfin, pas minuscule, mais petite par rapport à des grands leaders, ouais, d'avoir pu à un moment poser une vision de façon très forte. Et tu vois, ce qui regroupe là les trois exemples que je tenais, qui étaient les premiers qui me venaient à l'esprit, c'est qu'à un moment, et c'est ce que tu te rends compte quand tu travailles avec des marques, et notamment des marques où tu travailles avec le fondateur sur le positionnement, c'est qu'en fait, s'il y a un moment où tu passes pas du temps avec le fondateur, en fait, t'as pas compris la marque. Toute la stratégie ne sera, enfin, toute la stratégie, en fait, hyper conditionnée par ce qu'est la personne de façon très humaine. Et qu'en fait, les valeurs de son entreprise sont très souvent ses propres valeurs à lui. Ses convictions sont d'abord ses convictions à lui, au-delà des convictions de marché, au-delà de, tu vois. Et souvent, d'ailleurs, c'est un exercice, enfin, quand tu travailles avec des, notamment des petites marques qui se lancent, des startups, etc. Par exemple, j'en passe toujours par une interview hyper approfondie, c'est presque cabinet de psy, tu vois, du fondateur. Est-ce que tu te rends compte, en fait, que au-delà de tout ce que tu pourras avoir dans l'approche business, de l'analyse de ta marque, de ta plateforme, etc., en fait, c'est sa vision à lui du monde que tu vas retracer dans une marque et par des produits, etc.
D'accord. Trop bien. Bah, écoute, j'ai envie de te poser un milliard de questions maintenant là, pour qu'on bosse sur, sur la plateforme de marque et sur, et sur le business. Attends, je regarde mes notes. Comment tu vois les choses évoluer dans les mois qui viennent? Parce que là, c'est encore chaud, quoi. Je veux dire, on se regarde tous en chien de faïence. J'ai l'impression, on se dit, ok. Enfin, on se rend pas encore compte de la violence de la crise qui nous attend parce qu'on est sous perfusion. Enfin, l'économie est encore sous perfusion. Le gouvernement met des coups de plan Marshall à tout va, etc. Donc, on se rend pas vraiment compte de l'étendue des dégâts. La marée. Enfin, j'aime bien cette image de dire en fait, on est en plein tsunami. La vague est encore là et la mer ne s'est pas encore ne s'est pas encore retiré et on ne se rend pas compte de l'étendue des dégâts. Dans quelle mesure tu penses que ça va être, ça va changer le monde, quoi?
Ouais, ben déjà, d'une approche business, ça va être très compliqué pour des problématiques de dépenses des ménages, et puis les industries dans lesquelles on travaille sont évidemment pas forcément les premières. Si le budget de ton foyer s'est retrouvé vachement réduit, c'est pas forcément les premiers achats que tu vas faire, c'est pas forcément des achats de mode. Donc forcément, pour notre industrie en particulier, il va forcément y avoir des conséquences assez importantes. D'où le fait que tu sais que ceux qui vont s'en sortir vont être les marques qui vont avoir créé autre chose en fait qu'une expérience et qu'un lien commercial avec leurs clients, mais qui vont avoir créé quelque chose de plus fort. Aujourd'hui, on a du mal à imaginer de façon complètement réelle, parce que tu as raison, effectivement, l'économie est en perfusion. Après, la mode, c'est une industrie de l'air du temps. Et la question, c'est comment elle va encapsuler ça? Comment elle va réussir à finalement bouger, se transformer et faire en sorte de proposer aussi des choses qui vont donner envie aux gens? Parce que évidemment, tu as ce pan de la consommation qu'on a évoqué pas mal, de responsabilité, d'écologie, etc., qui est un des pans. Tu as un autre pan, tu as quand même des gens qui le 11 mai faisaient la queue devant chez Zara pour aller acheter des vêtements. Tu as toute une notion aussi qui est la dimension de plaisir dans la consommation de mode, de comment finalement le vêtement est un moyen d'expression, comment finalement c'est un peu importe finalement le prix qui va coûter, mais c'est un petit luxe que je m'offre pour me faire plaisir. C'est une forme de façon de retrouver de la liberté quand on a été confiné avec une sensation réelle d'absence de liberté. Donc du coup, finalement, c'est une façon de reprendre le pouvoir aussi. Donc, tu as quand même aussi cette consommation qui va exister. Après, quelle forme elle va prendre? Elle va être de toute façon différente. Elle va être sur des produits qui vont être… Et tu l'as vu, par exemple, en Chine au début. Alors, évidemment, c'est un recul hyper court parce que ça s'est déconfiné il y a très peu de temps. Mais les premiers produits qui ont été achetés ont été des choses plutôt minimal, timeless, des produits que tu allais pouvoir garder, tu vois, des essentiels de garde-robe, machin, que tu vois dans la consommation de façon générale. Les recherches sur un sac Chanel classique sont en hausse de 75%. Enfin, tu vois, tu as quand même des trucs qui te disent, les gens sont en train de chercher des espèces de pièces iconiques qu'ils vont pouvoir garder parce que tu as ce rapport au temps qui est un peu bizarre. Et de l'autre côté, assez rapidement, tu te rends compte que dans les marques de mode, tu as eu quand même vite une recherche de trucs complètement ultra saisonniers, ultra gadgets. Donc aussi une consommation genre purement plaisir de la mode et purement de j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de voilà, le climat est ultra anxiogène, donc avec des produits hyper visuels, enfin des trucs qui étaient assez, enfin donc tu vas avoir ces deux pans qui vont être de toute façon de consommation qui vont être là. Un autre truc que tu vas voir apparaître de façon très forte et qui là va être plus compliqué à gérer, c'est l'expérience en magasin. C'est-à-dire que t'as un truc qui va arriver. Tu vas avoir ces différentes typologies de consommation, mais tu as un truc qui va être quand même en filigrane pour tout le monde, c'est la montée de la dimension d'hygiène, hyper forte. Comment tu crées une expérience en magasin demain, par exemple en magasin de beauté, quand le propre de l'expérience dans un magasin de beauté, c'est l'essai. C'est de tester les produits, c'est de les mettre sur sa peau, c'est de se les mettre sur le visage, etc. Toutes les DNVB qui ont lancé des magasins, je pense à Glossier par exemple, quand ils ont lancé leur magasin, tout est créé autour de l'expérience, tout est créé autour du fait de pouvoir tester. Si tu enlèves ça, l'expérience en elle-même n'a plus de sens. Donc, comment tu vas recréer cette expérience en magasin? Comment tu vas gérer, là, quand tu as les grands magasins qui disent que quand ils vont ouvrir, ils vont mettre les produits, quand tu les auras essayés, en stock, pendant moins de 4 heures. Enfin, tu vois, c'est une espèce de truc de toute la partie spontanéité qui est hyper forte dans la mode, puisque c'est celle-là même qui est à l'origine de l'achat coup de cœur, qui est une très grosse partie de l'achat de produits de mode. Aujourd'hui, cette démarche de spontanéité, elle va forcément, si ce n'est disparaître, en tout cas, être très sérieusement mise à mal. Donc, du coup, finalement, le produit va aussi avoir une importance qui va être presque moindre par rapport à la relation que tu vas avoir tissée avec ta marque. Et c'est en ça où les marques ont été malines quand elles ont su créer du lien pendant toute la période du confinement, tu vois. Quand elles ont su rester hyper présentes, rester là, etc. Tu as l'exemple de Nike, pas. Exactement, toute brand content qui a été créée, quand tu as des marques comme Nike qui ont créé leur appli pour faire du sport, sachant que tout le monde s'est mis au sport plus ou moins et de façon plus ou moins réelle pendant le confinement, tu as des marques comme ça qui ont réussi à créer une relation un peu plus long terme avec toi pendant ce moment-là. Donc finalement, aujourd'hui, c'est ça que tu vas aller chercher aussi, d'où l'importance d'avoir autre chose à raconter finalement que ton produit, puisque l'expérience avec le produit va être quand même bien, bien limitée. Après, c'est sûr que tu as des industries qui commencent à émerger. Tu as des produits, c'est même plutôt amusant. Tu as évidemment le homeware qui cartonne, tu as les produits que tu vas porter chez toi qui vont cartonner, tu as le jogging qui cartonne. Enfin, tu vois, tu as d'autres catégories de produits. Toute la partie représentation de la mode où tu vas sortir, etc., eh ben, elle est un peu plus en deçà. Mais tu as toute l'émergence aussi. Tout le athleisure qui était déjà fort, qui continue parce que tu t'es mis à faire du yoga en regardant ta vidéo, etc., qui ont amené des nouvelles pratiques. Donc, ça te fait aussi un peu évoluer ton vestiaire. Et puis, tu as aussi toutes les nouvelles envies qui vont émerger, tous des nouveaux mouvements créatifs. Je pense à, tu vois, toute cette esthétique qui est un peu... qui avait déjà été initiée par les marques d'outdoor, mais qui va virer encore plus dystopique parce que tu vas devoir porter un masque, etc. Tu sais que tu vas avoir toute une esthétique un peu fin du monde, futuriste, etc., qui va être hyper forte aussi, donc qui va quand même aussi créer des nouvelles envies et des gens qui vont avoir envie de consommer des produits. Après, c'est sûr que tu te retrouves dans un moment où la consommation va être ultra challengée et il va falloir être très fort pour sortir son épingle du jeu. Accessoirement, les problématiques des Fashion Week qui ont été évoquées, alors que ce soit l'arrêt de Saint-Laurent, la sortie de Saint-Laurent de la Fashion Week de Paris, que ce soit la lettre de Dries Van Houten qui explique qu'ils veulent ralentir les rythmes de mode et changer la saisonnalité, que ce soit les prises de parole de Giorgio Armani, de Marc Jacobs, etc., tu as quand même là une communication générale sur les rythmes de mode et sur la communication des marques pendant ces moments de Fashion Week. Donc demain, comment tu vas recréer ces expériences-là ? Qui étaient quand même des moments où tu avais une focalisation de l'attention, de la communication sur les marques, les grosses, mais aussi les petites qui défilaient en Fashion Week, ou cette espèce d'énergie que tu avais à ce moment-là. Donc du coup, comment tu vas émerger par rapport à tout ça ? Donc tu as quand même pas mal de trucs qui sont rechallengés, et en fait, la créativité, elle va plus se jouer uniquement sur le sexe, ce qui n'était déjà plus tellement le cas, mais elle va être loin de se jouer uniquement sur le vêtement, mais sur la totalité de l'expérience que tu vas proposer, intégrant la communication et tous les éléments satellitaires que tu vas pouvoir créer autour de ta marque.
Et tu as des pistes là-dessus, parce que j'aimerais juste revenir sur le côté retail, expérience, magasin, etc. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait si on peut plus toucher quoi que ce soit ?
Comment on fait ?
Puis j'ai envie de te poser la même question sur il y a plus de Fashion Week. Comment on fait pour émerger et avoir une espèce de constellation de communication et de contact avec tes clients différents que les Fashion Week et le retail pour raconter ton histoire quoi. Tu as 5 minutes.
Alors, je pense que pour nous trouver la solution, je pense que tu as évidemment, l'un des premiers enjeux, c'est la question de la digitalisation, parce que tu n'as pas le choix, en fait. C'est-à-dire que autant c'était un mouvement qui était en route depuis très longtemps, mais il faut aussi faire attention à une perception uniquement de marques jeunes qui sont montées par des gens qui ont 30 ans, qui baignent dans une culture ultra digitale et pour lequel c'est un truc évident. C'est pas encore du tout le cas de toutes les marques d'avoir vraiment intégré en fait cette problématique, et ça reste toujours parfois un truc que tu traites à côté, qui est compliqué, etc., et qui est pas traité de façon ultra fluide. Cet exercice-là, t'as appris que c'était ton seul rempart à un moment pour continuer à vendre tes produits. Donc ça a forcé aussi à remettre un peu les priorités et à remettre notamment ton e-shop au centre de tes différents canaux, si tu veux, de ton expérience multicanal. Donc du coup, tu avais ce premier truc qui est hyper important, qui est la montée de la digitalisation. Comment tu vas pouvoir transformer ton magasin demain ? Clairement, là, tu as tout un moment et tu vas avoir de toute façon deux moments, c'est-à-dire le moment maintenant et le moment où tu auras trouvé le vaccin, où ça va un peu se détendre, si tu veux, ou alors que la pandémie se sera complètement arrêtée, la question se posera plus. Mais là, tu as tout un moment où ton magasin va être réduit à soit une fonction ultra utilitaire, d'être en fait un rempart et un outil complémentaire de ton site web où tu vas pouvoir aller chercher les produits, où tu vas pouvoir avoir vraiment une fonction vraiment de support en réel, presque un desk où tu pourras aller chercher tes trucs. Peut-être aller voir les produits, mais déjà laisser en magasin, t'as vachement de magasins qui ont fermé leur cabine. Donc tu vois, tu vas avoir vraiment une problématique de, en fait, ce qui est aujourd'hui une des principales raisons pour lesquelles les gens ont encore besoin d'aller dans un magasin. T'as deux trucs en fait. T'as la fonction utilitaire, voir les produits, les toucher et les essayer. Et t'as une fonction expérientielle. Donc déjà, la fonction utilitaire, elle est bien amputée parce qu'en gros, les essayer, tu le fais pas trop quoi. Donc tu viens juste en fait être sur un truc un peu utilitaire. Sur l'expérience, là clairement, elle est très limitée. elle est très limitée pendant un moment parce que tu vas avoir effectivement un truc où tu peux, de toute façon, c'est très anxiogène. Tu le vois quand tu vas faire aujourd'hui tes courses dans un supermarché ou quoi, tu fais la queue devant. Enfin, t'es pas du tout dans une expérience qui est fluide, qui est agréable et qui est un truc, voilà. Donc de toute façon, t'as un frein du magasin qui va être ultra fort. Comment tu vas pouvoir après créer des... Donc, tu vas avoir une partie digitale, tu vas avoir toute une partie aussi de création de contenu qui vont être du film, de la vidéo, etc. Si tu peux plus faire ton défilé, il va falloir que tu trouves une façon de raconter ta saison et de mettre un accent sur ta marque qui va être hyper fort par de l'image et par de l'endorsement de célébrités, etc. Bien que celui-ci soit un peu remis en question et on pourra en reparler. Pour faire un peu rayonner ta marque à un moment. Après, est-ce que ça veut dire que tu vas changer aussi ta rythmique ? Est-ce que tu vas continuer à avoir ces grands-messes saisonnières qui étaient un peu ce moment où tu investissais des millions d'euros pour faire ton défilé, ou tu vas avoir une multiplicité de petites choses qui vont pouvoir être gérées avec des petits événements, en petits comités, et où finalement tu vas espérer, qui n'aura peut-être pas la même retombée, mais que cette multitude de petits éléments apporteront à ta marque autant qu'une grand-messe. Tu te rends compte, par exemple, aujourd'hui, que avant, je parle d'avant, période avant Covid, et qui du coup va pouvoir être accentuée sans doute après, tu avais quand même des marques qui travaillaient de plus en plus avec, et je pense notamment les marques de sport qui sont très fortes sur ce sujet-là, avec d'un côté un truc ultra pour tout le monde, très grand, très grandiloquent, très grosse campagne, etc., et tout un tas de micro-initiatives. De je vais travailler juste avec une communauté sur un produit sorti en toute petite série qui parle vraiment à une cible ultra définie, très locale. Bah, tu vas peut-être aussi avoir une façon de communiquer complètement éclatée et clairsemée. Tu vois, il y en a qui se... Peut-être que demain, aujourd'hui, tu es encore vachement dans ce que tu mets sur ton site internet, c'est relayé sur tous tes réseaux, etc. Demain, ta marque, elle sera sans doute aussi un croisement de toutes les petites expériences que tu auras proposées à plein de petits endroits différents, mais plus un truc complètement uniforme, enfin complètement global qui fera du lien entre tous ces trucs-là, etc. Ce sera une multitude de petites actions. Tu as des marques qui, par exemple, je sais pas, vont pouvoir faire une vidéo sur YouTube et ne pas la mettre sur leur site, tu vois, et qui, en fait, vont exister par tout un tas de petites actions. Et plus forcément être dans, il faut que tu aies exactement le même message qui soit diffusé en même temps sur tes réseaux sociaux, dans ton magasin, qui était plutôt ce qu'on dit. L'expérience 360, tu as ces deux façons de l'envisager, en fait. T'as soit c'est partout pareil, soit en fait, c'est une multitude de petites expériences qui, toutes additionnées, créent la cohérence de ma marque. Gucci, par exemple, est un peu dans un modèle comme ça. Tu as tout un tas de micro-trucs. Si tu... Ouais. Et toi, si t'es une cible particulière, tu n'en verras jamais qu'un dixième de tous les trucs qu'ils ont fait. Mais ils sont cette addition de petits paramètres qui, mis tous ensemble, créent cette espèce de puissance de la marque, mais où chacun va avoir une perception qui est un peu différente selon les messages qui lui sont adressés. Ça, c'est aussi une façon de voir la façon de traiter la marque à 360. Mmh.
C'est vrai que là, on pourrait faire un case study sur Gucci, ça pourrait être assez ouf. Mais alors, ça veut dire que c'est un peu la fin de la loi de Pareto, quoi. C'est plus très 20-80, quoi. Il faut aller créer plein de petites choses. C'est fini le côté.
Aujourd'hui, t'as pas tellement le choix. Mmh. C'est-à-dire que tu vas être moins sur effectivement un gros truc que cette multitude de petits éléments parce que t'as aussi pas la façon de pouvoir les créer. Comment tu fais pour shooter une énorme campagne quand ça mobilisait X personnes sur un plateau, etc., quand c'est compliqué? Alors bon, tu peux shooter sur FaceTime comme l'a fait Jacquemus, mais tu vois, comment tu fais sur le long terme? Comment tu fais demain un événement quand de toute façon tu peux pas inviter plus de 10 personnes? Enfin, en gros, aujourd'hui, il va falloir que tu transformes le fait que tu dois ne travailler qu'en petit pour pouvoir faire aussi muter ta façon d'envisager ta marque par cette multitude de petites actions. Vas-y.
Je voulais rebondir sur ce que tu disais sur l'endorsement des célébrités. Finalement, c'est exactement le même calcul. On va plus aller chercher qu'une seule célébrité énorme qui a plusieurs millions de followers. On va aller chercher une multitude de personnalités qui incarnent d'une manière ou d'une autre ta marque, quoi.
Alors déjà, c'était un mouvement qui était en marche avec évidemment l'essor de la micro-influence. Là, il y a eu un truc hyper fort aux États-Unis qu'on n'a pas trop vu en France, en tout cas pas de la même façon, mais qui est sorti, qui était un hashtag assez puissant, qui était Guillotine 2020, et qui était en fait une critique des célébrités. en fait, qui était un peu mise, montrée du doigt sur c'est facile de dire restez chez vous quand tu vis dans une maison avec 47 chambres. Bon, du coup, de rester chez toi, c'est moins complexe. Mmh. Et en fait, il y a une espèce de critique des élites, ouais, et de la déconnexion que tu pouvais avoir avec, entre les célébrités et les gens du quotidien. Et en fait, ce gap est ressorti de façon hyper forte. Là, enfin, et on l'a vu de toute façon que t'avais une, tu vois, une espèce de, une accentuation des clivages et des différences qui pouvaient exister à ce moment de, tu vois, de confinement, etc., des conditions dans lesquelles tu vivais ton confinement. Et du coup, il y a pas mal de célébrités qui ont été très critiquées pour leur, enfin, pour le fait, en fait, d'être un peu donneur de leçons à ce moment-là et d'être, en fait, complètement déconnecté de la réalité des consommateurs. Et je pense que ça, ça va aussi une influence sur, finalement, le discours de la vie parfaite de l'influenceur avec des millions de followers ou de la célébrité va avoir finalement un peu un impact différent. Et tu l'as vu avec l'émergence de, tu vois, de tout ce qu'on a pu entendre de nouveaux héros, de dire que aujourd'hui les nouveaux héros sont les soignants, les nouveaux héros sont les gens qui ont été en première ligne ou en deuxième ligne, qui ont permis à l'économie et au pays de tourner et de soigner les gens pendant que tout le monde était confiné chez lui. Et du coup, tu as déjà des marques qui s'en sont emparées. Tu as Dove qui a déjà sorti une campagne avec des médecins et qui fait un focus sur les visages avec la marque que laissent les masques. Enfin, en gros, quelles sont ces personnalités-là qui vont aussi à un moment être porteurs des valeurs de ta marque et qui vont, par leur métier, par leur engagement, etc., être aussi une incarnation de ce que toi, tu as envie de porter comme marque. Donc, tu as aussi ce type-là d'influenceurs et en tout cas d'égérie de marques qui commencent à émerger et qui sont aussi un truc assez intéressant.
Très bien. Bah, écoute, je pense qu'on a déjà fait un bon 360. Est-ce que tu vois d'autres choses à ajouter, de choses notables qu'il faut absolument avoir en tête pour les mois qui viennent?
Je pense qu'il y a il y a la question de la donnée qui est sur le grill. Pas mal en ce moment, notamment pour les applis de tracking, mais qui en fait remet la donnée au cœur du débat, de ce qu'on fait des données des gens, de finalement comment on les traite. Et tu te rends compte qu'aujourd'hui, ça va être un enjeu assez important pour les marques, qu'il va y avoir une problématique de en fait prendre le moins de risques possible. Donc, soit de produire uniquement à la demande, c'est le cas d'un certain nombre de petites marques, soit en fait de back-upper à fond ces créations en essayant de s'assurer en fait par l'étude des comportements de consommateurs, par l'étude des best-sellers, etc., de prendre le moins de risques possible sur la fabrication de ces produits pour qu'ils puissent correspondre en fait à une possibilité d'être acheté assez facile et que tu ne te retrouves pas, parce que, sachant que tu as déjà des stocks par-dessus la tête pour ne pas en avoir un peu plus. Tu commences à entendre parler d'un truc, notamment en Chine, qui est le C2M, donc consumer to manufacture, et qui est en fait l'idée d'avoir presque de plus en plus d'usines qui vont se mettre au profit quasiment des comportements de ce que vont vouloir les consommateurs, comme tu as Amazon aujourd'hui qui va développer, genre quand ils voient qu'il y a un produit qui cartonne notamment dans une marque, ils vont développer le leur en marque blanche, ou même des fabricants qui vont se dire il y a ces produits là qui fonctionnent, on va les fabriquer. Tu as un exemple aux États-Unis qui s'appelle Italic, qui en gros utilise ce qui est dans les usines, les best-sellers un peu des usines, la doudoune dans telle matière, le petit porte-carte en cuir, ils fabriquent un peu le même genre que ceux des grandes marques, et en fait s'affranchissent du logo, s'affranchissent de l'identité de la marque. Donc tu as aussi ce modèle-là qui commence à émerger, d'être juste sur une qualité que tu as payée sans marque, etc., et qui est juste le bon rapport qualité-prix, et qui est encore une autre façon, et pour ça ils utilisent pas mal les données des consommateurs, donc de savoir en fait ce que les gens aiment pour faire exactement et sans prendre de risques. Donc pour les marques, vont aussi se poser la question de effectivement ce que tu es capable de fabriquer vraiment sans prenant le moins de risque possible avec cette question du stock, et sans doute là c'est ce que commencent à dire pas mal de designers sur les prochaines saisons, de travailler sur des lignes plus courtes pour avoir des collections qui sont plus resserrées, prendre moins d'un coup des espèces de gros parties, de grandes actions. On est vraiment dans ce truc un peu plus du micro-événements, micro-collections à taille un peu plus petite pour s'adapter aussi et être plus agile en fait. Parce que pourquoi il y a des marques qui s'en sont bien sorties? Pourquoi il y a des startups qui s'en sortent? Parce qu'elles agissent petit en fait. Elles font des petites choses et elles sont capables de bouger très vite. Et quand tout devient une espèce de grand-messe et un truc ultra processé, bah en fait tu perds l'agilité, et quand il se passe un truc comme aujourd'hui complètement inattendu, en fait, tu peux t'écrouler parce qu'il y a trop d'enjeux qui sont mis sur la table au même moment. Alors que finalement, si tu es sur une façon de travailler un peu plus par petites actions, finalement, tu peux aussi bouger plus vite et réagir plus vite, ce qui est quand même assez, assez fondamental quand là, tu sens que le climat est quand même... Et quand bien même, là, ça s'arrête, ça a quand même donné à tout le monde le sentiment que tout pouvait changer du jour au lendemain, quoi. Que tu n'étais pas dans un truc où demain serait comme hier et que ça allait... Enfin, d'un coup, tu as mis l'intégralité du monde à l'arrêt. Donc, en fait, tu te rends compte quand même que sur ta considération de tes projets à 3 ans, etc., ça bouge aussi ton rapport au temps de façon assez forte.
Et sur la partie, les usines qui font des produits, tu y crois vraiment à ce truc-là, toi? Parce que j'ai le sentiment quand même que la place de la marque reste quand même centrale, quoi. Je veux dire... si demain on te propose une qualité, je sais pas, une qualité de maison de luxe, mais sans marque forte, enfin, je veux dire, ça fait envie à personne, non?
Pour le luxe. Mais il n'y a pas que le luxe. Et quand c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui fait du consumer to manufacture? En gros, c'est les géants du retail. C'est les Alibaba avec Taobao, c'est Amazon. Et en gros, c'est des gens qui deviennent tellement puissants. Alors, t'es évidemment pas sur des achats coup de cœur, t'es plus sur de l'achat utilitaire, mais souvent, alors c'est pas trop le cas en France, mais aux États-Unis, souvent quand tu lis la presse américaine, tu te rends compte que t'as un produit Amazon, je sais pas, une espèce de doudoune, par exemple, à un moment t'avais ça cet hiver, une espèce de doudoune parka machin, a vendu, je sais pas, peut-être $50, qui était un carton, qui faisait des chiffres, qui explosait, genre ce que pouvait faire, tu vois, n'importe quelle marque de mode, et en fait, ça existe aussi. Et c'est en fait des quantités vendues aussi qui sont extrêmement importantes. Évidemment, pas du tout sur une approche de la mode qui fait rêver et où tu es sur un produit purement coup de cœur. Mais il ne faut pas oublier aussi que tu as une part de l'habillement, enfin de l'industrie textile habillement qui est aussi générée par de l'achat plus utilitaire, etc. Et du coup, tu as aussi une légitimité pour ces typologies d'acteurs. Évidemment, s'ils sont portés par un retailer qui a une puissance de frappe et qui a une capacité par la donnée à pousser aussi ses contenus en priorité, les mettre en avant, enfin, tu vois, et qui font qu'ils ressortent comme étant des indispensables. Donc, ça existe aussi. C'est complètement différent de la mode telle qu'on va l'envisager comme un truc plaisir, un truc coup de cœur, etc. Mais ça aussi, ça existe aussi. Et comme aujourd'hui, tu vas avoir quand même des dépenses des ménages qui vont se resserrer et tu vois des budgets qui vont se contracter, il faut pas négliger aussi toutes les solutions qui vont permettre aux gens de payer moins cher des produits dont ils vont avoir besoin.
Très bien. Et ben écoute, je te propose qu'on s'arrête là, sauf si tu as encore un point à rajouter. Merci non. beaucoup pour ton partage d'expérience. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Tout à l'heure, je parlais de ta newsletter, mais explique-nous comment est-ce qu'on peut rentrer en contact avec toi et suivre ton actualité.
Alors, on peut me suivre sur les réseaux, sur Instagram, sur mon site. Et je vais sans doute lancer dans les jours qui viennent une série de vidéos qui vont être dédiées purement au sujet d'évolution des comportements des consommateurs dans cette époque-là pour essayer de suivre. Je me rends compte que sur des formats assez courts, sur vraiment des problématiques particulières à chaque fois, essayer d'expliquer en gros un petit axe de ce que ça va pouvoir changer et comment finalement les marques vont pouvoir s'adapter à ça. Donc, ça devrait... être en ligne dans assez peu de temps.
Et donc toi aussi, tu te mets dans la stratégie de contenu à mort.
Exactement.
Comme les marques. Très cool. Et bah écoute, merci beaucoup Alexandra et puis bah à très bientôt. Salut.
Merci Adrien.
C'est fini. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, c'est simple. Allez sur le blog du podcast www.entreprendredanslamode.com. Aussi, si vous souhaitez me contacter ou me suggérer de nouveaux invités, vous pouvez le faire sur Instagram sous le pseudonyme @entreprendredanslamode. Enfin, le plus important, laissez-moi un avis sur Apple Podcasts ou iTunes, 5 étoiles de préférence. Cela m'aide à faire connaître le podcast à plus de monde et m'encourage à faire de meilleures interviews. Merci de soutenir ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.